11h30, Infomag, Jean-François Bodin.
Christian Théin rencontre la présidente de l'Assemblée nationale, une rencontre qui suscite une vive réaction du député Nicolas Metzdorf. À 15 jours du déménagement d'Ercal vers Tontouta, le président du gouvernement s'est rendu sur place pour présenter les aménagements pour accueillir les vols domestiques. 10 000 pétards et danse du dragon, c'était hier le nouvel an chinois, une entrée dans l'année du cheval de feu célébré au soyer vietnamien. Des parents mobilisés pour une rentrée sans problème, le vice-recteur parle d'une rentrée sereine et fluide. En métropole, le procureur de la République de Lyon livre les premiers éléments sur le lynchage de Quentin, battu à mort par 6 personnes. L'enquête a été requalifiée en homicide volontaire. Et puis en sport, une journée sans médaille tricolore au JO 2000 en Cortina. En ski alpin, les espoirs en slalom sont hélas envolés pour Clément Noël, le tenant du titre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pourquoi, où, quand et comment les premiers Javanais sont arrivés sur le territoire et comment s'est passée leur installation? Comment ont évolué leurs activités et leur culture? Ce sera le thème du magazine Citoyen que vous retrouverez dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Thierry Timan, le président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie, de Marcel Magui, historien, et de Shirley Timan pour le groupe de musique Angklung Vibration. Rendez-vous pour le magazine Citoyen dès la fin de ce journal. L'actualité politique à la une avec cette rencontre qui fait du bruit. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a rencontré Christian Théin qui effectue une tournée à Paris avec le FLNKS pour convaincre les parlementaires de ne pas soutenir la réforme constitutionnelle. Le député Nicolas Metzdorf a réagi dans un courrier adressé à la présidente de l'Assemblée, Elisabeth Noir.
Le député de la première circonscription écrit à Yaël Braun-Pivet qu'il a appris cette rencontre avec grande surprise et il rappelle un certain nombre de faits à la présidente de l'Assemblée nationale. Sans préjuger de l'indépendance de la justice, ni du principe fondamental de la présomption d'innocence, écrit-il. Il apparaît que M. Théin est mis en examen pour des faits d'une particulière gravité et il rappelle les chefs d'inculpation de vol en bande organisée avec armes, de destruction en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Dans ce contexte, écrit Nicolas Metzdorf à la présidente de l'Assemblée nationale, la réception de cette personne au plus haut niveau de l'institution parlementaire ne peut que susciter incompréhension et profond malaise. Il ajoute que cette rencontre est d'autant plus déplacée au regard de la situation dramatique vécue par de nombreux Calédoniens qui ont tout perdu lors des émeutes du 13 mai 2024. Le député de la première circonscription relève aussi que Christian Théin participe activement à l'échec de toute dynamique de dialogue en vue d'aboutir à un accord politique durable en Nouvelle-Calédonie et que dans un moment où l'apaisement, l'écoute et la responsabilité doivent primer, l'institution parlementaire se doit de veiller à la clarté des messages qu'elle adresse à l'ensemble des parties prenantes. En conclusion, Nicolas Metzdorf demande à Yaël Braun-Pivet de bien vouloir préciser les objectifs de cette rencontre, les messages qui ont été délivrés, ainsi que les garanties apportées quant au soutien de l'Assemblée aux victimes des violences et aux démarches visant à rétablir un dialogue constructif et pacifié en Nouvelle-Calédonie. Fin de citation de cette lettre qu'a adressée aujourd'hui le député Nicolas Metzdorf à la présidente de l'Assemblée nationale.
L'actualité est politique avec la préparation des élections municipales et une nouvelle candidature à Païta. Sylvia Abel, ancienne élue de Dumbéa sous les mandatures de Georges Naturel et Johan Lecourieux, se présente dans sa commune d'origine avec une liste baptisée « Un cœur pour Païta », Léana Colombo.
Petite fille de l'ancien maire de Païta, Robert Abel, Sylvia Abel entend démontrer son profond attachement à la commune de Païta avec une liste sans étiquette, uniquement constituée de personnes issues de la société civile. La candidate annonce avoir établi depuis un an une démarche construite à partir du terrain, fondée sur l'écoute, la méthode et le collectif. Sylvia Abel.
Nous souhaitons être vraiment au service de la population. Païta a besoin d'être l'écoute, d'attention, d'être pris en charge au-delà de tout ce qui puisse se passer autour. Car nous voulons rester vraiment ce que nous sommes, dans la transparence, avec le respect de chacun. La sécurité, c'est le quotidien des habitants. Ça a été au retour des données que nous avons pu avoir avec les différentes rencontres depuis un an, le point le plus important. Les gens sont, pour certains, dans la peur. Pour certains, ils se disent qu'ils sont les oubliés. Pour d'autres, ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Nous voulons vraiment leur redonner confiance.
Le programme de Sylvia Abel n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais en plus de la sécurité, Un cœur pour Païta souhaite mettre l'accent sur le social, l'emploi, la jeunesse et la proximité. Une liste qui rassemble toutes les ethnies et qui peut compter sur les précédentes expériences de la candidate municipale.
Les atouts de cette campagne, c'est d'avoir déjà une liste citoyenne, de pouvoir être à l'écoute de chacun, de prendre du temps pour chacun. C'est réel, je suis la seule femme face à tous ces hommes. Vous savez, je pense qu'une femme a une vision différente des choses. Et j'ai une expérience, oui, de trois mandatures municipales à une ville voisine. J'aurais tant aimé pouvoir être élue à Païta. Je n'en ai pas eu l'opportunité, qu'importe. Je pense que le moment est arrivé.
Sylvia Abel fera face au président de l'Éveil au Seigne, Milakulo Tukumuli, avec sa liste Païta, un nouveau souffle. Et Antoine Romain, qui avait été le premier à déclarer sa candidature pour les loyalistes à Païta, avec sa liste Païta, j'y crois, qui s'inscrit dans la continuité de l'actuelle maire Marilyn D'Arcangelo.
Les élus du Congrès étaient réunis en séance publique ce matin, boulevard Vauban. Un seul texte était à l'ordre du jour, Lionel Sabot. Il s'agit d'un projet de loi du pays portant adaptation de diverses dispositions du droit du travail et de la protection sociale.
Un projet de loi du pays qui a été extrêmement bien préparé et travaillé avec l'ensemble des partenaires sociaux. Projet de loi en réponse à la crise de mai 2024. Dans le détail, ce projet de loi du pays se compose de plusieurs volets. Le premier de ces volets, créer une présomption de démission en cas d'abandon de poste par le salarié. Écoutez Gilles Briel, c'est le rapporteur spécial de ce projet de loi du pays.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se présentent plus au travail, qui ont décidé de quitter leur travail, mais qui ne veulent pas démissionner pour pouvoir bénéficier finalement des allocations chômage. Ce qui met en difficulté les entreprises, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui vont courir après ces personnes, qui vont engager des démarches longues, qui ne peuvent pas recruter puisque le poste est bloqué, et des démarches longues pour pouvoir licencier la personne. L'objectif, c'est quand il y a une suspicion finalement de démission, le chef d'entreprise enclenche une procédure qui est validée par la DTE pour pouvoir transformer cet abandon de poste en démission.
Le texte institue également un délai de carence en cas de maladie non professionnelle des salariés du secteur privé. Il s'agit en fait de réduire ce que l'on appelle les arrêts maladie du vendredi et du lundi qui coûtent cher à la communauté. Autre volet dans cette loi de pays, la prolongation du dispositif d'accompagnement du maintien de l'emploi. Naya Wateu, membre du gouvernement en charge notamment du travail et de l'emploi.
Effectivement, elle est attendue. C'est un peu plus de 290 entreprises aujourd'hui qui continuent d'être accompagnées. Et derrière elle, c'est des milliers d'emplois et de milliers de personnes et d'hommes et de femmes qui rentrent encore à la fin du mois avec un salaire. C'est essentiel dans ce contexte. Mais voilà, on avait besoin d'avoir cette confirmation qu'on était en capacité financière de pouvoir soutenir ce dispositif. Aujourd'hui, on l'a. Maintenant, c'est un dispositif qui va être jusqu'au 31 juillet 2026. Ça ne règle pas la situation. Encore une fois, sans stabilité institutionnelle et sans relance de l'économie, on devra encore faire ses efforts.
Et j'ajoute que ce projet de loi du pays a été adopté à l'unanimité des élus présents ce matin, boulevard Vauban. Des élus qui se retrouveront dès jeudi pour une nouvelle séance publique. Ils examineront les budgets primitifs 2026 de la Nouvelle-Calédonie.
L'aéroport de la Tontouta est prêt à accueillir les passagers domestiques. C'est le message passé ce matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par la CCI et la compagnie Air Calédonie, Nicolas Legrand.
Oui, alors il reste quelques derniers ajustements, évidemment, dans l'aérogare de la Tontouta. Mais le 2 mars prochain, les vols d'Aircal ne décolleront plus ni n'atterriront plus depuis Magenta, comme c'est le cas historiquement, mais bien de l'aéroport international de la Tontouta. Un projet qui était resté longtemps dans les cartons, mais dont la mise en œuvre s'est accélérée après la crise économique liée aux violences du 13 mai 2024. Cette mutualisation des infrastructures doit permettre des économies importantes à la Nouvelle-Calédonie. Cela représente par exemple une suspension d'environ 1 milliard de francs au titre des infrastructures, mais aussi une réduction des charges de l'ordre de 500 millions pour Aircal. Écoutez Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Ce plan qui est concrétisé fait partie aussi du plan de sauvetage de la connectivité aérienne entre les îles et la Grande Terre. Moi, je ne veux pas être le président qui n'a rien fait et qui a laissé couler la connectivité entre la Grande Terre et les îles. Parce que si on ne complète pas le plan de redressement de Aircal avec cette opération, alors que les salariés ont fait l'effort de faire un plan de licenciement avec leur direction en 2023, alors que la compagnie a fait l'effort de vendre un avion l'année dernière pour pouvoir tenir, alors que le gouvernement et la compagnie ont fait l'effort d'aller chercher d'autres pistes pour faire du chiffre d'affaires, notamment à Vanuatu sur l'international, mais également sur le domestique de Vanuatu. Si on ne fait pas ce dernier plan qui contribue aussi à sauver la collectivité aérienne, bah écoutez, c'est le risque que certains veulent prendre. Moi, je ne veux pas le prendre.
Depuis juillet 2025, la CCI a dû procéder à des aménagements à l'intérieur de l'aérogare de la Tontouta pour permettre la cohabitation des flux de passagers domestiques et internationaux. Tout n'est pas totalement finalisé. Il y aura une première phase jusqu'au milieu d'année et ensuite l'aménagement définitif sera mis en place. Écoutez Rémi Berdoy, il est le directeur de l'aéroport de la Tontouta.
un grand changement, mais en même temps, on s'y prépare de longue date, et j'ai eu l'occasion de le dire, ça fait quelques années maintenant.
La compagnie domestique qui promet également un meilleur service, que ce soit au sein de l'aéroport et évidemment également eh bien, dans ses vols. On va écouter ce coup-ci bien Daniel Omboui, le directeur général d'Air Calédonie.
Donc on a proprement créé des espaces arrivées et départ dédiés aux passagers domestiques. On aura des installations qui sont mutualisées sur la partie départ, mais permettant aux passagers de disposer d'un espace dédié pour l'embarquement. Et puis à l'arrivée, une salle d'arrivée dédiée aux passagers domestiques qui pourra derrière leur donner accès de manière très simple dans le cheminement, accès à l'ensemble des services que propose l'aéroport. L'accès aux navettes, l'accès au parking et aux différents commerces de la plateforme. On est totalement prêt, je le disais, les infrastructures sont prêtes, les équipes sont prêtes et motivées. On a vraiment à cœur d'accueillir les passagers domestiques dans les meilleures conditions. On est conscient de l'impact que ça génère pour l'ensemble de la population et on se tient prêt à faire du mieux possible pour que ça se passe bien.
Alors au-delà de ces aménagements donc effectués par la CCI, je le disais, la compagnie domestique promet un meilleur service à ses usagers, que ce soit au sein de l'aéroport, mais même dans l'opération. Daniel Omboui, le directeur général d'Air Calédonie, ce coup-ci.
Un grand changement, mais en même temps, on s'y prépare de longue date, et j'ai eu l'occasion de le dire, ça fait quelques années maintenant qu'on opère depuis Tantouta. Enfin, nos avions, on les a déjà vus ici à la Tantouta, puisqu'on assure la desserte de Villa depuis octobre 2025. Là, c'est 3 avions qui seront en permanence là, avec du personnel, à peu près 80 personnes qui sont concernées, qui travailleront Air Calédonie à Tantouta. Donc on verra les couleurs d'Air Calédonie ici très prochainement. On pense que les gens, après avoir essayé, adopteront Tantouta et auront pris des habitudes ici à la Tantouta, parce que, comme vous pouvez le voir, l'infrastructure est belle, elle est de qualité, et qu'ils apprécieront leur expérience de voyage au départ de la Tantouta vers les îles ou l'arrivée. Après, une amélioration aussi qui sera tout à fait notable, les gens le savent, c'est que l'aéroport de la Tantouta, contrairement à l'aéroport de Magenta, on a une ouverture, des horaires d'ouverture de l'aéroport, de la plateforme, qui sont beaucoup plus étendus que celles de Magenta. Ce qui fait que, dans le cas de retard, qui se cumule dans la journée, contrairement à Magenta, on ne sera pas forcément obligé d'annuler le dernier vol. On aura encore des services ouverts aéroportuaires à la Tantouta, et donc ces vols-là seront sauvés. Un exemple très concret et pratique des avantages de la Tantouta.
Et je rappelle que les usagers d'Aircal, pour certains, protestent contre ce déménagement et ce transfert d'Aircal à la Tontouta. Les collectifs d'Ouvéamar et Lifou et l'île des Pins annoncent fermer leur aérodrome. Ce sera vendredi et samedi prochain, mais aussi le lundi 2 mars, date à laquelle les vols débuteront à la Tontouta. Dans une lettre écrite au président du gouvernement, Alcide Ponga, les coutumiers des îles réaffirment leur opposition au déménagement de la compagnie aérienne. Et en parallèle de ces blocages, une marche sera organisée vendredi à partir de 7h, à partir de la vallée du Tir.
Nous sommes entrés dans l'année du cheval de feu. C'était hier soir le nouvel an sino-vietnamien célébré par les communautés asiatiques du territoire. Et comme chaque année, une grande fête a rassemblé les membres de la communauté au foyer vietnamien. Le reportage de Charlotte Coulson.
De la musique, des pétards pour faire fuir les mauvais esprits et surtout un bon repas à partager en famille et entre amis. C'est ce qui fait le succès chaque année de cette célébration organisée par l'Amicale vietnamienne. Dès 20h, le show a commencé avec des danses traditionnelles, des danseuses en tunique agitant leur chapeau au rythme de la musique. De quoi captiver le public en attendant l'ouverture du buffet, car la fête du Tet, c'est aussi et surtout un repas. Banh chung, nem chua, pâté de Tet. Il y avait de tout pour remplir le ventre des invités hier soir.
Je ne sais pas ce que je mange, mais c'est très bon. Il y a du porc, il y a du nem, ça se mange bien, c'est très bon.
Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, il y a plein de trucs que je découvre.
Moi, je mange du pâté, c'est trop bon.
Et pour dépenser les calories absorbées en un temps record, place à la danse, avec une ambiance qui, chaque année, fait bouger même les plus fainéants.
Eh ben super, des super danses, une ambiance d'enfer et on a bien mangé, donc top. Pas la première fois, mais ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue au foyer et l'ambiance est toujours au rendez-vous.
On passe un bon moment, on découvre plein de cultures et on passe une soirée fantastique. Donc on est content d'être là.
Et puis arrive le moment tant attendu. À minuit pile, 10 000 pétards sont allumés. C'est une tradition, il faut faire fuir les mauvais esprits et réveiller les bonnes âmes. Ouais 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 nouvelle année a donc débuté ce matin, placée sous le signe du cheval de feu, un signe du zodiaque chinois qui symbolise le renouveau, selon Michel Fong, le président de la communauté chinoise de Nouvelle-Calédonie.
Alors le cheval, tout le monde connaît l'animal. C'est un animal qui est fougueux, qui représente la vitesse, qui représente la force. Et donc cette année, d'après l'horoscope chinois, ce sera l'image de l'animal. C'est-à-dire le fougueux, donc il y aura beaucoup d'entrain. En plus, dans l'horoscope chinois, l'année du cheval représente en fait une année de changement. C'est-à-dire que les changements sont lents à se mettre en place, mais une fois qu'ils seront en place, ce sont des changements d'une façon générale qui sont permanents.
Des embrassades, des vœux de bonheur, le président de l'amicale vietnamienne, Patrick Guyon, n'a pu que se satisfaire de l'ambiance de cette soirée du tête.
En langue, on dit Chúc mừng năm mới, une bonne année, une bonne santé. Ce rituel sacré est un rituel familial, mais depuis que l'amicale vietnamienne existe, nous le partageons avec tous ceux qui se reconnaissent comme nos amis. Et c'est important pour nous pour partager notre culture, pour transmettre nos valeurs. Et cette soirée, avoir sur le sourire des gens, une soirée réussie.
Une soirée réussie pour une nouvelle année lunaire, vous l'avez compris, placée sous le signe du dynamisme et du renouveau.
Il est 11h47 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une pause dans ce journal. On se retrouve pour une page spéciale rentrée dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Passez une journée au phare Amédée avec le Maridé, élu meilleure excursion à Nouméa pendant 10 années consécutives. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec une nouvelle page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais,
la rentrée se poursuit, une partie des élèves est rentrée hier, mais le retour en cours se fait de manière échelonnée jusqu'à mercredi. Tout se passe bien, nous a dit le vice-recteur Didier Van Dattich, qui a eu de bons retours de tous les chefs d'établissement hier.
Les informations dont nous disposons confirment que la rentrée se déroule d'une façon sereine et fluide. Vraiment, ce qui nous a frappé, c'est que nous n'avons jamais vu autant de parents d'élèves dans nos établissements en ce jour de rentrée. Donc, qui dit beaucoup de parents, dit beaucoup d'élèves, des parents très mobilisés et très volontaires pour que leurs enfants fassent de bonnes études. Alors, la rentrée est échelonnée, donc il faut attendre quelques jours. En fait, il faudra attendre quasiment la fin du mois de mars pour avoir une connaissance précise de nos effectifs et on pourra confronter nos constats avec nos prévisions, mais il semble bien que nous sommes clairement dans une phase de stabilisation de nos effectifs sur le plan donc des élèves.
Et nous avons demandé au vice-recteur si une solution avait pu être trouvée pour les élèves de la DEC dont les internats sont restés fermés à la rentrée.
Nous avons travaillé hier encore dans une réunion qui a été pilotée par Madame Chamoureau. Il semble que la plupart des élèves du privé aient retrouvé un point de chute dans l'enseignement privé, que dans l'ensemble, les points sont réglés, notamment sur la FOA, sur PAITA. Il reste un sujet sur Kouébo qui est en cours de règlement. Et nous avons un petit flux d'élèves du privé vers nos établissements publics. Voilà comment la situation se présente. Rien de nature à bouleverser les structures pédagogiques qui ont été mises en place.
La rentrée scolaire qui se poursuit, c'est aussi la rentrée pour l'EGC, l'école de gestion de commerce de la CCI, qui fête ses 40 ans cette année. 40 ans au cours desquels l'école a dû faire face à de nombreux défis, et c'est le cas aujourd'hui encore avec les conséquences de la crise économique consécutive aux violences insurrectionnelles de mai 2024. L'EGC a su s'adapter, affirme David Leclerc, le directeur des écoles de la CCI. Il était notre invité à 7h30.
L'EGC a été créé par les entreprises, pour les entreprises, et de fait, l'objectif était bien de former pour fournir à la Calédonie, aux entreprises calédoniennes, des jeunes managers ou jeunes chefs d'entreprise. Et c'est vrai que pendant toutes ces 40 années ont été émaillées de crises, d'évolutions de la société calédonienne et de l'économie calédonienne. Et c'est un peu l'enjeu des EGC au niveau national, puisque ça fait partie d'un réseau national, comme au niveau territorial, que de s'adapter vraiment de manière très précise. Et pour le coup, c'est vrai que nous, on a cette ambition-là que de répondre et d'évoluer. Au niveau de la crise, effectivement, on aurait pu craindre que les entreprises prennent moins d'alternants, prennent moins de stagiaires. Ça n'est absolument pas le cas. On a un bon retour de ce côté-là. Je pense que la notoriété de l'école et la qualité des étudiants, des diplômés qui en sortent sont un peu la marque de fabrique et sont reconnus. Et c'est vrai que ça nous a permis, sur, de toute façon, juste post-crise, aussi nous d'aider, d'accompagner les entreprises sur des programmes qu'on a montés spécifiquement pour contribuer nous aussi à la reconstruction.
Et 40 ans après sa création, l'EGC a créé un véritable réseau dans le monde économique calédonien et son attractivité ne se dément pas en 2026.
On n'a jamais eu autant de candidats sur les 10 dernières années, donc une vraie attractivité de l'EGC. Je pense que ça tient justement à cette polyvalence, à cette possibilité de monter en puissance. Et puis, il y a de l'envie d'ailleurs. On propose différents parcours. On s'adapte aux besoins et aux profils des étudiants. On a des parcours sportifs de haut niveau, on a des parcours double diplôme, on a des parcours en alternance et des parcours entreprendre. Donc, cette diversité permet aussi aux étudiants de se projeter pour la suite.
L'EGC qui organise sa semaine d'intégration et qui fêtera son 40e anniversaire au travers de divers événements au cours de cette année. Vous pouvez visionner ou réécouter l'interview de David Leclerc en podcast sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 52% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils jugent inquiétant la baisse des effectifs pour cette rentrée scolaire 2026 avec pour la première fois depuis 30 ans moins de 60 000 élèves scolarisés. Ils sont 48% estimés que cela n'est pas inquiétant. Notre question du jour, la sécurité aux abords des établissements scolaires est-elle l'une de vos préoccupations à l'occasion de cette rentrée 2026? Si c'est l'une de vos préoccupations, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.mc. Ouais.
Et la rentrée scolaire, c'est aussi l'occasion des souvenirs.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez-nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Quel est pour vous l'objet qui symbolise la rentrée? C'est la question que nous avons posée à plusieurs personnalités pour cette rubrique consacrée aux souvenirs de rentrée. La réponse ce midi du président du CTOS, Christophe Dabin.
C'est pas une rentrée scolaire quand j'étais enfant ou jeune. C'est plus ma première rentrée quand j'ai commencé en tant qu'enseignant à Kouawa, avec une classe de CM2, de CE2, pardon. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, c'est tout le travail que tu fais des semaines avant pour dire, faut que je sois prêt, faut que j'apporte quelque chose. Et c'est ça qui est important parce que tu sens le poids, l'importance de ton rôle, de ta mission, et que tu sais que tu dois faire quelque chose pour pas que les enfants passent à côté de leur scolarité. Je crois que l'objet que j'ai amené, c'était un ballon, parce qu'à l'époque, le sport était extrêmement important, et ça permettait avec ce ballon de pouvoir dire aux élèves qu'on allait faire de l'éducation physique et sportive, et que là, même le premier jour, on pouvait prendre le temps d'y aller et de s'amuser et de faire déjà passer des apprentissages.
Si vous aviez un message de rentrée scolaire à faire passer à tous ces élèves, ces enseignants qui font leur rentrée scolaire?
C'est un moment important, autant pour les élèves que pour les enseignants. Pour les enfants, c'est se dire, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de contrainte. On y va, parce qu'on sait que de toute façon, on a l'école, on sait ce qu'on doit faire, et c'est chacun va faire comme il peut. Donc ne pas se mettre un stress, une pression particulière. Et pour les enseignants, ce que je pourrais dire, c'est vous avez en face de vous des enfants. Vous devez leur apporter quelque chose. Tenez compte de chacun.
Christophe Dabin, le président du CTOS, qui évoquait l'objet qui, pour lui, symbolise la rentrée. Il était au micro de Kélinda Boiscou, rubrique que vous retrouverez tous les jours de la semaine sur Radio Rythme Bleu pour accompagner cette rentrée scolaire.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Il est 11h55, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole. Nous reviendrons évidemment sur l'enquête concernant la mort du jeune Quentin.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale avec Jean-François Baudin.
Et elle est toujours dominée par l'enquête sur la mort de Quentin lynché à Lyon il y a 4 jours, probablement par des militants de l'ultra-gauche. Le procureur de la République de Lyon a livré les premiers éléments de l'enquête. Il a surtout confirmé la requalification des faits. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
L'enquête initialement ouverte pour coups aggravés ayant entraîné la mort est requalifiée en homicide volontaire, violences aggravées et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de 15 ans de réclusion criminelle. Ces faits sont désormais passibles du double pour les auteurs. Des suspects toujours en cours d'identification. Au moins 6 personnes ont porté des coups à Quentin, indique le procureur de Lyon, Thierry Dran.
L'autopsie pratiquée ce matin par des experts médico-légaux sur Quentin Durank a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions était au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelle à brève échéance.
Un déchaînement de violence inouïe qui n'a donc laissé aucune chance au jeune homme de 23 ans. L'enquête se resserre désormais autour de plusieurs personnes en lien avec la Jeune Garde, ce groupuscule d'extrême gauche fondé par le député insoumis Raphaël Arnaud. Selon les informations d'Europe 1, au moins 3 militants de cette organisation aux méthodes violentes, tous fichés S, étaient présents sur les lieux de l'agression.
L'extrême gauche en général et la Jeune Garde en particulier sont donc dans le viseur de la justice et le ministre de la justice, Gérald Darmanin, l'a martelé une nouvelle fois, c'était sur CNews ce matin pour nous, l'extrême gauche a tué.
Manifestement, l'extrême gauche a tué. L'ultra-gauche, l'extrême gauche a tué. Moi, je dis qu'en effet, il faut dénoncer les mots chargés comme des revolvers de la France insoumise, pas de tous les dirigeants de la France insoumise, pas de tous les électeurs de la France insoumise qui, peut-être de bonne foi, souhaitent croire aux propos de M. Mélenchon. Mais la plupart des dirigeants, manifestement, on savait déjà qu'ils frôlaient, pour ne pas dire qu'ils dépassaient la ligne jaune de l'antisémitisme, mais oui, appel à la violence et à la violence qui tue. Ce n'est pas la police qui tue en France, c'est bien des comportements d'ultra-gauche.
Mais cette affaire met une nouvelle fois en avant les liens troubles entre LFI et la Jeune Garde, ce groupuscule qui a donc été fondé par le député insoumis Raphaël Arnaud. Et dans cette affaire, son assistant parlementaire Jacques-Élie Favreau a été reconnu par des témoins comme étant l'un des agresseurs, ce qu'il nie formellement. En attendant le résultat de l'enquête, ses accès à l'Assemblée nationale ont été suspendus. Mais son cas inquiète LFI, car le député Raphaël Arnaud est un très proche lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, Arthur Delaborde.
À partir de 2022, la France insoumise s'est rapprochée de la Jeune Garde avant de les utiliser comme service d'ordre officieux. Pour récompenser ses efforts en 2024, Jean-Luc Mélenchon offre un siège de député à leur chef Raphaël Arnaud et appelle ses militants à durcir leur méthode.
Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Il va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes.
Mais depuis la mort du jeune Quentin, la France insoumise prend ses distances avec la Jeune Garde. Le collaborateur parlementaire Jacques-Élie Favreau est suspendu le temps de l'enquête. Il ne nie pas avoir été présent à Lyon lors de ce drame. C'est un problème, confie un cadre insoumis. En interne, l'embarras est pesant et les élus restent bien silencieux. Seul Manuel Bompard affirme que Jacques-Élie Favreau sera renvoyé si son implication est bien confirmée. Ce drame vient percuter la stratégie d'apaisement et de recentrage initié par Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de septembre pour laver son image avant la présidentielle de 2027.
L'actualité en métropole, ce sont aussi les intempéries qui touchent plusieurs départements, le Lot et Garonne et la Gironde notamment, qui sont en alerte rouge en raison des crues exceptionnelles qui provoquent de gros dégâts. 1600 habitants ont dû être temporairement relogés dans des gymnases d'accueil. C'est le cas de Virginie à Tonnasse dans le Lot et Garonne.
Au niveau de mon portail, l'eau elle arrive aux genoux, on peut pas passer. On a voulu essayer de voir au moins s'il y avait des dégâts à l'intérieur de la maison, mais c'est trop dangereux. On est dans le gymnase là depuis 3 nuits maintenant. Donc là moi j'ai juste le gamin de 11 ans. Puis là j'ai dû dormir 6h, 7h en 3 nuits. Là on nous parle d'une seconde remontée des eaux. On se pose plein de questions quoi en fait. Hein.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. C'est un voyage aussi discret qu'important. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est arrivé à Alger, où il a été accueilli à l'aéroport par son homologue. Une visite de 2 jours qui doit permettre de relancer le dialogue bilatéral. C'est ce qu'explique tout de suite Arthur Delaborde.
Une visite loin des caméras, sauf celle du régime algérien. Laurent Nunez avance prudemment, son entourage reste mystérieux sur son programme, évoque simplement des échanges avec son homologue centrés sur la sécurité et l'immigration. Mais au cours de ce déplacement, le premier d'un ministre de l'Intérieur français à Alger depuis 4 ans, Laurent Nunez devrait rencontrer le président Tebboune. Selon les informations d'Europe 1, il pourrait lui remettre une lettre signée Emmanuel Macron. 3 priorités sur la table. D'abord les OQTF, Paris demande des retours, mais Alger ne délivre toujours pas de laisser passer consulaire. Ensuite, le cas Christophe Glaise, le journaliste français détenu depuis mai 2024. Enfin, la question sensible des visas. Alger affiche aussi ses attentes. La presse locale évoque en particulier le cas d'un ancien haut responsable de l'ambassade d'Algérie à Paris, accusé d'enlèvement et de séquestration d'un opposant en France. Mais sur ce dossier, toute requête diplomatique est vouée à l'échec, l'affaire étant entre les mains de la justice. Le régime algérien le sait parfaitement, ce qui ressemble à un message sur sa réalité. Volonté de reprendre le dialogue.
Il est 12h02, une nouvelle et dernière pause dans ce journal avant l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et si vous repreniez la main sur vos compétences, sur votre avenir professionnel? Avec Scasi Formation, développez les compétences d'aujourd'hui et de demain. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le design et les métiers du digital. Ne vous laissez pas dépasser. Formez-vous, avancez. Scasi Formation, prenez votre destin professionnel en main. Appelez-nous au 26 20 69 ou rendez-vous sur formation.scasi.nc. Formations éligibles au financement.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, Jean-François Baudin.
Et la suite des Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina, une journée décevante pour les Français en ski alpin. Les derniers espoirs de médaille de la discipline reposaient sur les épaules des slalomeurs, mais le champion olympique 2022 Clément Noël et la révélation de l'hiver Paco Rassa ont malheureusement enfourché une porte et n'ont pas terminé la course. Avec 15 médailles, dont 4 en or, la France reste 7e au classement des médailles. Et puis en football, c'est demain matin pour nous que Monaco et le PSG s'affrontent pour le match aller des barrages de Ligue des Champions. Rendez-vous important pour les deux clubs et notamment pour le PSG qui avance ces derniers jours en plein doute. Christopher Filac pour Europe 1.
Le tenant du titre parisien semble fébrile cette saison. 6 défaites, toutes compétitions confondues. La dernière en date ce week-end, 3-1 face à Rennes. Il faut réagir, estime le milieu parisien Vitinha.
Il faut vraiment régler les choses qu'on n'a pas bien fait. Il faut vraiment parler un peu de certains sujets. Et voilà, à régler et être prêt pour le prochain match.
De quoi susciter l'inquiétude chez Luis Enrique.
Beaucoup inquiet, je suis tous les jours inquiet parce que je vais améliorer et je vais beaucoup plus de les joueurs.
L'autre crainte pour l'entraîneur de la capitale concerne probablement le parcours européen des Monégasques, car si tout va mal en championnat, Monaco montre un tout autre visage en Ligue des Champions. Le club de la Principauté s'est montré solide contre des grosses équipes, des matchs nuls encourageants contre Manchester City, Tottenham et la Juventus. Pour la 2e saison consécutive, 2 clubs français vont donc s'affronter sur la scène européenne. Un duel qui ne fera dans tous les cas pas les affaires de la France puisqu'elle ne comptera plus qu'1 représentant à l'issue de ces matchs.
Il est 12h05, c'est la fin de ce journal.